Pour terminer ce tour de table, donc la parole à Ernest Reicher, qui est vice-président de Saint-Ville France et ancien directeur de l'Action chrétienne en Orient.
Voilà. Mesdames, merci et bonjour. Moi, j'aimerais surtout parler des cailloux blancs, parce qu'il faut bien dire qu'ils existent. Alors, juste pour dire un mot qui je suis, l'Action chrétienne en Orient, existe depuis 1922, je suis au Proche-Orient depuis 1982, c'était la première fois. Et ce qui m'a beaucoup marqué dès le départ, c'est la préoccupation de la question palestinienne, où que vous alliez. Moi, j'ai surtout rencontré des chrétiens, et parmi les chrétiens, surtout des protestants qui existent aussi dans cette partie du monde. Dans les divers pays, dans les divers milieux, vous revenez toujours à la question de la Palestine, qui est vécue comme une préoccupation et comme une souffrance. Et tout le monde vous dira, tant que cette question de la Palestine n'est pas réglée, rien ne sera réglé au Proche-Orient. Première chose. Deuxième chose, ce qui m'a toujours ébahi, c'est la non-violence de ces gens. Où que vous alliez, tous les ingrédients sont là pour que tout explose. Je me demande comment font des gens dans cette situation pour rester non-violents et pour travailler à la rencontre et à l'édification de la société. C'est un peu ce que font les chrétiens, même si on n'en parle pas beaucoup chez nous, dans nos églises. J'ai mis sur la table, là derrière, quelques exemplaires du document Kairos qui a été présenté en décembre, le 11 décembre 2009, qui est un appel aux chrétiens de la région, un appel aux églises du monde, un appel à la société civile israélienne et palestinienne, un appel à tout le monde, qui se présente, le titre de ce document, c'est « Un moment de vérité, une parole de foi, d'espérance et d'amour venant du cœur de la souffrance palestinienne. Un cri d'espoir, dit-il dans les premières lignes, en l'absence de tout espoir, une parole de foi, d'espérance et d'amour. » On y reviendra tout à l'heure. Mais je crois que c'est important que dans cet alignement d'informations qui mènent au désespoir, vous ayez des gens qui, on se demande comment, lance un cri d'espoir en sachant qu'il a vu, mais il n'y en a pas. Je suis vice-président de Serville. Serville a été créé à la fin des années 80. C'est un prêtre anglican, Naïm Atik, qui a sorti d'abord un bouquin qui s'appelle Justice, rien que la justice, et qui a créé un centre œcuménique, c'est très très important, de théologie de la libération à Jérusalem. Nous associons souvent théologie de la libération à l'Amérique centrale, à l'Amérique du Sud. Nous pensons aussi que c'est une lecture marxiste des événements. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, c'est une relecture des textes bibliques dans une perspective de la libération. C'est tout à fait étonnant. Vous pouvez effectivement lire les Écritures dans cette perspective-là. Ce que disent ces gens, c'est que la paix sans la justice ne peut pas être la paix. La première chose à réaliser, c'est la justice. C'est la justice, c'est la réconciliation, c'est la rencontre, c'est la libération. Ce sont les mots-clés qui reviennent dans tout ce travail. Ce qui est étonnant aussi, c'est que tout ce travail ne soit pas seulement un travail œcuménique dans ces milieux, c'est un travail de rencontre interreligieuse. J'ai rencontré la première fois en 90 l'évêque Younan, qui est l'évêque luthérien de Jérusalem. J'ai rencontré régulièrement à Beyrouth, à la faculté de théologie, l'évêque anglican. Tous ces gens-là sont engagés dans un travail de rencontre interreligieuse, à la fois avec les musulmans et avec les juifs. tout cas avec ceux qui veulent bien entrer dans cette démarche. Nous avons soutenu tout un ensemble de projets d'animation de jeunesse en disant que l'éducation c'est une chose essentielle, un travail auprès des femmes, et tous ces projets aussi sont des projets interreligieux. La situation, alors on reviendra sur le reste, nous avons parlé des divers blocages, je voudrais juste en ajouter un. C'est le 18 février dernier, le veto des États-Unis contre une résolution présentée par 130 pays et soutenue par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, et condamnant la poursuite de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens, cette résolution a été bloquée à cause du veto des seuls États-Unis. Lors de la conférence, de la 8e conférence internationale de sa vie qui a eu lieu fin février à Jérusalem, je crois qu'il s'appelle Safier, qui était ambassadeur de l'autorité palestinienne, a dit que cette résolution a été rédigée en tenant compte des mots même de la politique américaine telle qu'elle était présentée par Obama. Donc, en toute logique, cette résolution, qui ne faisait rien d'autre que reprendre l'attitude politique officielle des États-Unis, aurait dû être acceptée. Elle a été soutenue par tout le monde, mais le veto des États-Unis a empêché qu'elle soit acceptée. Ce qui veut dire que dans la situation actuelle, on a l'impression que rien ne peut bouger et que ce ne sont même pas les États-Unis qui font la politique, mais que c'est Israël qui impose aux États-Unis la conduite à tenir. Il n'empêche, et nous y reviendrons sans doute, à travers toute une série d'initiatives, d'initiatives de chrétiens, mais de chrétiens avec religions, les autres, les musulmans, les juifs dans la région, des choses sont en train de bouger. Ce que je voudrais peut-être dire aussi, parce que cela n'a pas été dit assez fort, c'est que ce document Kairos a été soutenu par l'ensemble des 13 églises chrétiennes qui sont à Jérusalem. Malheureusement, ce document a de la peine à être accepté par les églises. Je parle pour les églises protestantes en France, autant la Fédération protestante de France n'a pas beaucoup bougé, les églises protestantes ici ne l'ont pas accepté non plus. Et les évêques nous semblent qu'ils non plus.
Je suis sûr. Peut-être
qu'il y a
un petit peu
les
raisons, s'il vous plaît.
Ah, les raisons, il faut leur demander, mais c'est très simple les raisons. Nos églises ont peur d'effaroucher la communauté israélienne qui soutient Israël à fond, et alors on préfère ne rien dire. Lors de la dernière rencontre de Sabine, Naïm Atik disait « Le grand malheur, la grande faiblesse des églises actuellement, c'est qu'elles n'ont pas de souffle prophétique. » Un souffle prophétique qui leur permettrait de dire une parole de vérité et de ne pas se préoccuper en tout premier lieu de ne pas perdre de barque. On y reviendra très vite.
Oui, on va avoir l'occasion d'y revenir, parce que